Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Et depuis samedi à Paris, porte de Versailles, les cloches tintent, les coqs chantent et les politiques, bien sûr, défilent. Pas de doute, c'est bien le 52e salon international de l'agriculture qui a ouvert ses portes. Et comme chaque année, le salon a ses stars. On a donc, bien sûr, pu voir Filouze, la vache laitière, égérie du salon, et Fêtard, le taureau de presque 1900 kilos. Des stars que François Hollande est venu tâter samedi, Emmanuel Valls hier, car le salon de l'agriculture, c'est surtout l'occasion pour les politiques et les agriculteurs de faire le point sur notre agriculture, sur sa santé, son avenir, avec cette année un thème à tiroir qui regroupe au moins trois questions pour le moins ambitieuses. Ce thème, l'agriculture en mouvement pour mieux manger, préserver l'environnement avec l'innovation. Tout y est, innover, préserver l'environnement, nous permettre de mieux manger. Est-ce qu'on est en train de demander à l'agriculture de sauver tout simplement le monde, alors même que le contexte est une fois n'est pas coutume compliqué pour les agriculteurs? Embargo russe, question autour de la PAC, quotas laitiers, les préoccupations ne manquent pas. Et dans le même temps, à l'échelle mondiale, la production alimentaire inquiète. Près d'un milliard de personnes souffrent aujourd'hui de la faim et nous serons 2 à 3 milliards de plus en 2050. Alors, entre en concurrence climat, surpopulation. Comment penser l'agriculture de demain pour qu'elle réponde à ces grands défis qui lui sont posés? Faut-il vouloir produire plus, produire mieux ou faire les deux à la fois? Autant de questions que nous allons aborder ce matin jusqu'à 8h45 avec nos trois invités. Bonjour Aurélie Trouvé.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur agronome, spécialiste des questions agricoles et alimentaires. Vous venez de publier chez Fayard Le business est dans le pré, les dérives de l'agro-industrie. Et je précise aussi que vous êtes aujourd'hui coprésidente du conseil scientifique d'Attaque France et que vous étiez auparavant... Non, oui, c'est ça, vous êtes toujours... C'est bien ça, voilà. Et auteur donc du Business est dans le pré. C'est le... la petite ambiance sonore qu'on a mis. Comment on n'a pas pu se rendre au salon de l'agriculture aujourd'hui pour des questions de sécurité, de vigipirate, de je ne sais quoi, de partenariat. On s'est dit... Une petite atmosphère de cours de ferme ne devrait pas nuire à ces matins. Bonjour Florian Dornier.
Bonjour.
Vous êtes un habitué des matins, vous quasiment. Vous étiez l'an dernier avec nous sur le stand alors, du Salon de l'Agriculture. Éleveur de vaches laitières, donc à Ville-du-Pont, dans le Doubs, la République du Saugeais.
La République du Saugeais, tout à fait.
C'est quoi cette République?
La République, c'est la plus belle République de France. C'est la République dans une autre République. Et je vous invite justement à venir nous rejoindre dans le Haut-Doubs pour visiter et puis pour vous rendre compte de la chance qu'on a justement dans cette République.
Bon, elle consiste en quoi cette République? À faire un peu quoi? Des quelques festivals, un peu de fou?
C'est mettre en scène, animer aussi le milieu rural, c'est se regrouper, c'est un petit patriotisme, un petit peu de chauvinisme dans l'Est de la France, alors qu'on a souvent connaissance de ceux de l'Ouest.
Voilà, déjà, vous voyez, première attaque. Et puis donc, Bruno Parmentier. Bonjour Bruno Parmentier.
Bonjour.
Ingénieur, économiste, consultant, conférencier sur les problèmes agricoles et alimentaires. Vous avez publié en septembre aux éditions La Découverte, Faim Zéro, en finir avec la faim dans le monde. Et puis, on se souvient, vous étiez venu nous voir aussi toujours à La Découverte pour votre livre Nourrir l'humanité, les grands problèmes de l'agriculture mondiale au 21e siècle. Je précise aussi que vous avez dirigé pendant 10 ans le groupe École supérieure d'agriculture à Angers. Alors, la première question toute simple, puisqu'on fait toujours cocorico avec le poids des bêtes que l'on voit, les extraordinaires animaux que l'on voit au sein de l'agriculture, la toute première question quand même, est-ce que la France est aujourd'hui encore, et puis comme ça on aura liquidé peut-être cette question, une grande puissance agricole?
Oui, bien sûr. On produit plus que ce qu'on mange en France. Hein. Bon. Alors, ceci dit, actuellement... Les Allemands commencent à nous exporter du cochon, etc. Donc, c'est quand même une interrogation. Parce que quand même l'Europe, c'est les paysans français nourrissent les ouvriers allemands, et les ouvriers allemands nous vendent des Volkswagen. Alors maintenant, on se dit, attendez, ils vont se mettre aussi à nous concurrencer, parce qu'ils appliquent, quelque part, les techniques industrielles à l'agriculture. Dans l'Est de l'Allemagne, les kolkhozes sont devenus des grandes fermes, et donc pour eux, 1000 vaches, c'est réglo, quoi. Alors effectivement, au bout d'un moment, s'il y a une concurrence de plus en plus exacerbée, effectivement, il va y avoir ce problème de modèle agricole. Est-ce que on tient à garder notre modèle des produits de qualité inscrits dans le terroir, une agriculture équilibrée, ou est-ce que finalement on va diviser par 2 ou 3 le nombre d'agriculteurs pour avoir que des grosses industries agroalimentaires à la campagne?
Dans son livre Aurélie Trouvé, et dans votre livre Aurélie Trouvé, vous parlez par exemple des asperges allemandes qui inondent le marché européen et français. C'est un des exemples dont parle Bruno Parmentier.
Oui, tout à fait. Bon, ben, les asperges en Allemagne, le problème, c'est qu'ils ont des salaires, les ouvriers agricoles, sur des exploitations qui font parfois des milliers d'hectares. Des salaires, il n'y a pas de SMIC hein, en Allemagne pour les travailleurs agricoles. Donc, ça, ils sont capables de produire bien moins cher. Et c'est vrai que la question, c'est comment nous, on préserve ou on conforte plutôt un modèle agricole, une agriculture familiale, alors qu'on a la concurrence sauvage qui est en train de s'installer. On va peut-être en reparler. On est en période de dérégulation de marché, de fin des quotas laitiers notamment, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de politique qui permet de limiter les volumes de production, il n'y a plus de prix garanti pour les agriculteurs. Donc
les travailleurs détachés hein, aussi.
C'est vrai que les travailleurs détachés, ce n'est pas que l'agriculture, mais l'agriculture, c'est quand même un secteur où il y a de plus en plus de travailleurs détachés par des agences d'intérim étrangères qui font venir du coup des travailleurs extrêmement flexibles dans une précarité incroyable qui permet de faire en gros 30% d'économie sur l'emploi. Donc on a des formes aussi de précarisation du travail au nom du libre marché où on baisse toujours plus les coûts de production vers le bas au détriment de l'environnement et de l'emploi. Et aujourd'hui, l'agriculture a détruit quasiment autant que le secteur industriel depuis 20 ans d'emplois. Alors, je suis très contente d'être à côté d'un producteur de Comté parce que c'est un bel exemple d'alternative.
On va lui poser la question, Florent Dornier. Je rappelle, vous avez 35 vaches laitières, 50 génisses. Vous travaillez seul, hein, vous n'êtes pas en GAEC, ni en SCEA, ni en EARL. On traduira tout ça peut-être tout à l'heure. Vos parents étaient agriculteurs, mais vous n'avez pas, vous, repris la ferme familiale. Vous vous êtes lancé de votre côté. Juste cette question que je posais à Bruno Parmentier. D'abord, est-ce que la France est encore une grande puissance agricole ? Et vous sentez-vous, vous, menacé par une concurrence européenne et par exemple allemande aujourd'hui ?
Alors certes, oui, la France est toujours une grande puissance agricole. Néanmoins, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on perd des parts de marché chaque année. Et ça, ça devient inquiétant puisque la grande puissance agricole que la France était commence à perdre vraiment en termes de croissance et en termes d'efficacité. Alors après, moi, ce que je m'aperçois, la politique agricole commune, c'est très bien. C'est quelque chose de commun à tout le monde, mais qui n'a de commun que le nom, si on regarde bien. Après, dans l'application réellement concrète, on s'aperçoit qu'il y a une distorsion de concurrence qui est quand même assez impressionnante entre tous les pays de l'Union européenne. Donc si au moins on peut avoir une politique agricole commune qui n'ait pas de commun que le nom, ça pourrait être plutôt bien.
Bruno Parmentier ?
Oui, il faut se rendre compte que c'est normal de réguler dans l'agriculture. Je veux dire, les pharaons faisaient ça, les empereurs de Chine faisaient ça. Tout le monde a compris, quand on est un peu responsable, que quand on sème son champ, on ne sait pas combien on va récolter, mais qu'il faut manger tous les jours. Donc, s'il n'y a pas de régulation de cette activité, c'est dramatique, parce que les années où on produit trop, les prix se cassent la figure, et les paysans se cassent la figure.
Mais comment
les années où on
ne
produit pas assez, c'est trop cher, etc. Donc, il y a plein de manières de réguler.
La PAC, elle régule ou elle ne régule pas ?
Elle régule de moins en moins. Et donc, la régulation qu'a fait la PAC, ça a permis un développement absolument considérable de l'agriculture.
Quand la PAC régulait trop, on entendait les agriculteurs des fois râler contre la PAC, et maintenant qu'elle régule moins, on râle parce que la PAC régule moins.
Il y a des modes dans la régulation. Regardez, dans le lait, on a commencé par dire, après la guerre, il faut absolument du lait, on va garantir le prix, quelle que soit la quantité.
Puis
on a
croulé
sous les excès, donc on a dit, maintenant on va réguler les quantités. Et maintenant, on ne régule plus rien. Et qu'est-ce qui va se passer ? Chaque agriculteur va produire 10, 15 ou 20% de plus, il va y avoir beaucoup de lait, c'est un produit qu'on garde pas quand même indéfiniment, donc effectivement les cours vont certainement s'effondrer et il va y avoir une hécatombe chez les éleveurs de lait de base qui vont pas pouvoir soutenir la concurrence.
Voilà, ce sera, je rappelle, le thème du grain à moudre d'Hervé Gardet ce soir à 18h20. Florent Dornier.
Moi, si je peux me permettre quand même, donc en termes de régulation, on connaissait le quota laitier, effectivement, mais si on regarde quand même, la France n'a jamais produit son quota laitier, n'a jamais donc dépassé, ne l'a jamais même atteint. Et par conséquent, on s'aperçoit quand même que les prix du lait n'ont jamais été au beau fixe. Donc c'est quand même un peu plus complexe quand même qu'une histoire de régulation et que d'offres et de demandes. Après, moi, parce qu'effectivement, vous avez mis en avant l'aspect Comté, moi je suis très fier de faire partie de cette AOC, mais
d'ailleurs,
aujourd'hui...
Vous êtes venu sans compter ce matin.
Mais je repasserai, je repasserai volontiers.
Pas du tout, ça.
Je repasserai, vous en amener avec plaisir.
C'est le fromage préféré quand même.
Je vous en amènerai avec plaisir. Mais si on regarde justement aujourd'hui l'aspect comté, c'est quelque chose qui est décrié par l'Union européenne puisque c'est trop verrouillé justement. Et ils nous demandent justement d'ouvrir les portes puisque c'est un secteur où on manque de concurrence. Donc j'ai l'impression qu'on nous met un petit peu en contraste en permanence entre un moment où on nous dit organisez-vous et les filières plutôt bien organisées, plutôt qui apportent de la valeur ajoutée. On nous dit là, ça manque de concurrence, il va falloir faire un plan de campagne à plus 20, plus 15%. Donc à un moment donné, il y a des incompatibilités en tout cas de politique.
Aurélie Trouvé.
Oui, sur les quotas laitiers, simplement, donc c'est en train d'être supprimé. Là, ça y est, c'est même cette année, on supprime complètement ces quotas laitiers. Il faut bien savoir qu'en France, on ne fait toujours pas notre quota, mais par contre, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, tous ces pays-là sont en train déjà de faire des dépassements de quotas en payant des pénalités énormes. Et on sait très bien que dès qu'on va lâcher les freins, ils vont produire énormément et ils sont capables de produire énormément avec des coûts de production sans doute plus faibles, mais avec des exploitations, je peux vous dire que c'est des exploitations de plus en plus grosses qui ont des taux d'endettement énormes et à mon avis qui sont des exploitations qui peut-être à court terme peuvent concurrencer mais qui sont à long terme vraiment non durables sur le plan économique, parce que c'est des faibles valeurs ajoutées, une faible création de richesse in fine. Sur le plan social, ça détruit énormément d'emplois. On prend l'exemple des 1000 vaches en Picardie, c'est 3 fois moins créateur d'emplois par litre de lait produit qu'une exploitation moyenne. Et sur le plan écologique, ce sont des pays qui ne sont plus capables de gérer la pollution, notamment de leur nappe phréatique. Donc on a aujourd'hui un modèle qui va dans le mur. Comment on fait en France pour ne pas aller dans ce mur-là?
Alors, quid avec ces questions que vous posez là, du thème général de cette année, défendu par le président de la République, de l'agroécologie, Bruno Parmentier. Est-ce qu'elle est là pour réguler encore quelque chose, cette agroécologie? Est-ce qu'elle est là pour annoncer des jours meilleurs sur à la fois quoi, la qualité, la productivité de l'agriculture?
Alors, l'agroécologie, elle est tout simplement indispensable. Alors, si on personnalise la planète comme une personne, elle se fiche complètement des quotas laitiers, elle se fiche complètement du taux de salaire, etc. Elle dit, je me réchauffe, et les ressources s'épuisent. Donc vous faites comme vous voulez, j'aurai le dernier mot. Et donc, de fait, notre agriculture, depuis 50 ans, tous les progrès de l'agriculture, ça consistait à dire je prends énormément de ressources non renouvelables pour se faire beaucoup à manger. Et ben maintenant, au tournant du siècle, on s'aperçoit que la nature est finie et que ces ressources non renouvelables sont vraiment non renouvelables. Et donc, il va falloir maintenant apprendre à produire plus et mieux avec moins, ce qui est forcément plus difficile, mais plus intéressant que ce qu'on sait faire, qui est produire plus et pas toujours mieux, avec plus. Et donc, au lieu de violer, on va dire, la nature, de tout retourner, puis de remettre des poudres vertes, violettes et oranges tous les jours, il va falloir s'insérer dans les processus naturels pour accélérer les processus agroécologiques. Il faut une agriculture écologiquement intensive. Il faut intensifier les processus écologiques, ouais. Alors ce qu'on sait faire, c'est intensifier les processus chimiques.
Voilà, alors ça c'est parfois donc ce qui peut rendre un peu schizophrène le discours sur la question agricole avec l'agroécologie, la question de l'intensif d'un côté et d'une qualité ou même du bio pour le résumer de l'autre. Écoutez ce qu'en dit justement sur cette question-là la philosophe Corinne Pelluchon qui vient de publier un essai, Les nourritures philosophies du corps politique et qui sera vendredi prochain chez Adèle Vanrette dans les chemins de la connaissance. On lui a posé la question, Antoine Beauchamp, sur ce thème de l'agroécologie, comment elle l'analysait?
L'agroécologie suppose que l'agriculture n'est pas une industrie, mais une relation au vivant, considérée dans sa dimension aussi sociale, avec aussi l'importance qu'elle revêt pour les gens qui font ce métier. Et par rapport à l'élevage, effectivement, il y a un autre discours, puisqu'on prétend que l'industrialisation de l'élevage est une nécessité pour nourrir la planète ou pour des raisons de compétitivité. Donc je trouve que c'est vraiment un double discours qui malheureusement ne permet pas d'avancer vers la bonne voie, puisque si on veut insister sur la qualité, je ne vois pas pourquoi les animaux, eux, continueraient à être enfermés et à subir une vie tout à fait mutilée. Il y a un problème aussi sur l'organisation du travail et je trouve qu'à partir du moment où on organise le travail au mépris du sens d'une activité, eh bien on ne peut pas être vraiment Même le mot efficacité, compétitivité, tous ces mots-là sont piégés. L'agriculture, c'est vraiment un pilotage du vivant, alors qu'elle a été de plus en plus conçue sur le modèle de la production d'objets manufacturés. Et ça, c'est à la fois quelque chose qui est un manque de considération à l'égard du vivant, même du sol, etc., mais aussi un effacement de la relation de l'homme au vivant.
Mais est-ce que, Aurélie Trouvé, ça n'a pas toujours été le cas quand on parle de la question agricole, ce double discours, ce U et Adia, avec toujours d'un côté les débats autour de la productivité, l'intensivité des choses, et puis à la fois un modèle plus bio, plus écologique.
Bien sûr, il y a un double discours. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une dualisation de l'agriculture. C'est-à-dire, d'un côté, on a un développement, circuit court, appellation de qualité, avec le Comté, par exemple, le bio.
On va faire une pub pour le Comté ce matin, voilà. Ça ne va pas arrêter, on va voir le
C'est un très bon exemple, je trouve. Donc, une dualisation avec cette agriculture, mais qui reste une agriculture de niche, malheureusement, qui n'est pas du tout en train de devenir un modèle dominant. Et puis, de l'autre côté, 85% du lait collecté, qui est du lait standard, et qui subit aujourd'hui la mise en concurrence frontale. Et donc, on a cette dualisation, et malheureusement, ce n'est pas en train de devenir le modèle dominant, la qualité, les circuits courts, etc. Et je voudrais parler, moi aussi, du double discours du gouvernement, parce que l'agroécologie, on peut mettre tout et n'importe quoi dedans. En attendant, je prends juste l'exemple de la directive européenne sur les nitrates, sur le taux de nitrate dans les eaux. L'élevage industriel breton, par exemple, est incapable de répondre à cette directive européenne. Que dit le gouvernement ? Au lieu de dire on va aider les agriculteurs bretons à changer d'agriculture et à le respecter, au lieu de dire ça, eh bien, il va négocier à Bruxelles pour essayer d'affaiblir la directive européenne sur les nitrates. Je pense que ça n'est pas la solution.
Pourquoi souriez-vous à l'exemple breton, Florent Dornier ?
Alors, d'un premier temps, parce que je pense que si les Bretons entendent ça, ils sont en train de s'arracher les cheveux, puisque je pense qu'en Bretagne, c'est là où il y a eu le plus d'efforts depuis 20 ans, et c'est là qu'on s'aperçoit justement la remise en cause permanente de l'agriculture, et c'est là où on voit le plus de résultats. Donc un message quand même positif pour l'agriculture bretonne. Et je pense qu'à un moment donné, on n'est pas là pour affronter quand même les systèmes. Pour revenir sur l'agroécologie, déjà, l'agroécologie, la première des choses, c'est de l'avoir mis au singulier, parce que c'est les agroécologies. Parce qu'aujourd'hui, mais on n'a pas entendu un ministre d'agriculture comme Stéphane Le Foll pour faire des agroécologies. On en fait depuis deux générations. On est des jeunes formés aujourd'hui, on s'installe en moyenne à 29 ans. La remise en cause, elle est permanente, on se forme. Et je pense qu'il faut arrêter de faire croire aux gens qu'on a attendu un ministre d'agriculture pour faire de l'agroécologie. Donc ça, on le fait déjà depuis 20 ans. Et moi, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'à un moment donné, on veut bien tout entendre, les agriculteurs. On veut bien des contraintes, on veut bien de la traçabilité, on veut bien faire des efforts sur les nitrates. Donc on va nous dire, allez-y, faites le plus beau jardin, c'est exceptionnel. Et après, on va acheter les fruits et légumes ailleurs. Donc à un moment donné, on veut bien des règles, mais il ne faut pas nous prendre pour des dindons non plus. Parce que ce patriotisme agricole, à un moment donné, il faut aussi que les consommateurs en soient conscients. Qu'on fasse de la France le plus beau jardin national, moi je dis ok. Mais à un moment donné, il faut que ça ait du sens, il faut que le consommateur y joue le jeu. Donc c'est là-dessus que ça ne va pas. Donc il y a énormément déjà de choses qui sont faites, et on n'a pas attendu Stéphane Le Foll pour faire des agroécologies.
Oh ! Regarde ! Ils sont extraordinaires !
Attends, ne cours pas. Tu veux que je te fasse le cri du dindon ?
Ouais.
Goulou, 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 goulou ! Goulou, 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 goulou ! Goulou, 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 goulou !
Incroyable! Ils sont super bien élevés. Attends, je le fais. Gourou, gourou!
Voilà l'irrésistible, évidemment, extrait de l'arbre, le maire et la médiathèque d'Éric Romer. Vous nous faites le dindon, Brice? Non, on n'allait pas faire.
Je ne sais pas faire, je peux faire la poule. Si vous voulez.
Allez, que nous direz-vous et quels sont les termes du débat de 8h15 avec vous?
Écoutez, je vais vous faire rêver. Drones et logiciels d'optimisation, numérique et robotique s'apprêtent à révolutionner l'agriculture. Je vais vous expliquer comment et pourquoi. Mais la question que j'aimerais poser, c'est avec des revenus très faibles et en baisse ces deux dernières années, est-ce que cette vitrine technologique n'est pas destinée à faire rêver la majorité de nos exploitants qui seraient incapables de s'offrir ces merveilles de précision?
Vous entendez la cloche, il est 8h au matin de France Culture.